Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous bénissons ton nom pour ton amour et nous te recommandons, Seigneur, ta parole. Nous prions pour que, Seigneur, tu nous parles, Seigneur, et que ta parole nous amène à prendre des nouvelles résolutions, Seigneur, pour notre marche avec toi au nom de Jésus. Amen. Nous lisons le psaume 130. Psaume 130. Psaume 130. Ici, le titre, c'est écrit chez moi, « Savoir attendre jusqu'au matin ». Savoir attendre jusqu'au matin. C'est ça le titre, psaume 130. « Cantique de degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. » Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère, verset 5, qui nous intéresse, j'espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Voilà ce que le psalmiste dit au verset 5. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Et il explique comment il espère, comment il attend. Il dit... Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Voilà ce que dit le psalmiste. Le thème de notre partage de ce matin, c'est espérer en Dieu seul. Et on nous dit ici que le psalmiste dit du fond de l'abîme. L'abîme, c'est une situation qui est tellement difficile, tellement dramatique, tellement... une grande souffrance, mais cette souffrance-là est particulière parce que il n'y a pas d'espoir. Et quelquefois, on peut passer par des souffrances, mais il y a une lueur d'espoir. On voit, comme on dit en français, le bout du tunnel. On a quand même, on sait que on peut s'en sortir d'une certaine manière. Il suffit d'attendre. Mais il y a des situations où on se dit, ben, il y a que la mort qui peut m'atteindre. La mort devient comme une délivrance. Mais dans ces situations-là, il y en a qui, eux, mettent leur confiance en l'Éternel. Il dit, du fond de l'abîme, j'espère en l'Éternel. Et il dit, mon âme espère en l'Éternel plus que les gardes ne comptent sur le matin. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que finalement, la nuit a sa durée. Mais la nuit, qui peut être longue, finit par quoi? Par passer. Et le jour arrivera. C'est juste une question de temps. Mais pendant ce temps-là, comment nous négocions les choses? Pendant ce temps qui peut être long. Aujourd'hui, je vois, au travail, on a des veilleurs de nuit. C'est des gens qui travaillent toute la nuit, ils veillent. Eh ben, c'est très long. Alors, à 7 heures, quand la relève arrive, on voit le sourire. Parce qu'il se dit à ce moment-là, finalement, là, je vais pouvoir aller dormir. Donc, on voit que quand la relève arrive à 7 heures, pour le veilleur de nuit, c'est la délivrance. Et c'est cela. Et le psalmiste dit, mon âme espère en l'Éternel. Il dit, plus que le garde. Le garde, lui, quand il travaille, ça, il fait ses rondes, il fait ses procès-verbaux en disant, tiens, telle heure, rien de spécial, RAS, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, à 5 heures du matin. C'est très, très long. Mais le jour finit par arriver. C'est cela. Espérer en l'Éternel. Dieu veut qu'on espère en lui. Dieu veut qu'on compte sur lui. Comme on a dit, la nuit a sa durée, mais cette durée-là va s'arrêter un jour. Et malheureusement, pendant cette durée-là, c'est là que le diable vient te proposer des choses pour te dire, mais regarde, mais tu peux faire de telle manière. Mais regarde, un tel, il a réussi à s'en sortir, puisqu'il a fait telle magouille. Mais regarde l'autre, comment il a réussi à s'en sortir. Tu es chrétien, mais regarde comment tu souffres. Est-ce normal? On a vu la semaine dernière comment le diable, on a vu la puissance de la parole, le diable est venu voir Jésus pour le tenter, pour lui dire, mais si tu es le Fils de Dieu, comment tu peux être le Fils de Dieu et avoir faim? Parce que Jésus arrive dans le désert, dans Luc 4, dans Matthieu 4. Il sortait du jeûne, il avait faim. Et le diable vient le voir pour lui dire, mais comment tu peux être le Fils de Dieu et avoir faim? Il y a un problème. Alors si tu es le Fils de Dieu, prouve maintenant que tu l'es. Alors transforme ces pierres en pain. La proposition du diable, elle est à propos. Pourquoi elle est à propos? Parce qu'à ce moment-là, Jésus a faim. Donc il ne vient pas lui proposer autre chose. Il vient lui proposer parce qu'il voit les besoins du Seigneur. Il vient à ce moment-là lui proposer quelque chose pour lui dire, mais regarde, transforme juste ces pierres en pain et tu manges. Finalement, c'est bon, la situation est réglée. Jésus dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de Dieu. Apprenons à espérer en l'Éternel. Espérer en l'Éternel, c'est quoi? Espérer en l'Éternel, c'est s'attendre à lui. Quelle que soit la situation, je m'attends à Dieu. Et quelquefois, on va vouloir faire par nous-mêmes, mais ça sera un échec. Et Dieu qui est bon, Dieu qui nous aime, quelquefois le piège c'est lequel? C'est de voir, comme j'ai dit tout à l'heure, que les méchants font des choses et ils arrivent à leur fin. On voit en politique, on voit dans le monde des entreprises, souvent ce sont les requins qui finalement arrivent à certains postes. Je suivais un reportage, je crois que c'était Bolloré, où on expliquait comment il a réussi à devenir finalement une grande fortune en France, mais non seulement une fortune en France, mais très influent dans les pays africains, parce que quasiment tous les pays francophones ont des marchés avec lui. Pour des constructions, des grandes infrastructures, et on expliquait comment il est arrivé à ce point-là. C'est que il a commencé tout petit, avec des associés, et dans leurs associations, il travaillait, il faisait des propositions, jusqu'au jour où un jour, ben, il s'est proposé. Je crois l'entreprise où ils étaient, je crois, a dû tomber en faillite. Et ben, lui, il s'est précipité. Il a doublé ses associés avec qui il était pour racheter l'entreprise, je crois, à 1 € ou quelque chose comme ça. Et finalement, les associés se sont rendus compte après parce que le type avait déjà tout pris. Il avait pris toutes les parts de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'il a commencé à racheter les entreprises. Donc finalement, ils ont commencé à associer et lui, il a réussi à manipuler tout le monde, à tromper tout le monde pour arriver à ce niveau-là. Et bien sûr, quand c'est comme ça, il faut couper des têtes. Quand tu vois qu'il y en a un qui est assez futé, assez intelligent, assez malin, eh ben, tu essayes vite parce que ces gens-là sont tellement prévoyants et tellement clairvoyants, ils voient, ah, lui, il va me poser des problèmes. Alors, je vais tout faire pour m'en séparer. Comme ça, je suis tout seul. Quand je dis ah, tout le monde dit ah, tout le monde suit. Et c'est comme ça que ça se passe dans ce monde-là. Diviser pour mieux régner. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde-là. Et Asaph voit cela, il dit, mais Seigneur, mais les méchants prospèrent. Ils sont en bonne santé, ils parlent mal, ils raillent, ils t'insultent Dieu, mais ils arrivent à leur fin. Et j'aime beaucoup le verset 25. Il dit, mais Éternel, qui d'autre ai-je au ciel si ce n'est toi? Voilà, c'est ça, espérer en l'Éternel. Parce qu'avant ça, Asaph, Dieu a ouvert ses yeux. Asaph dit, mais quand je parlais, quand je voulais faire comme eux, finalement, me débrouiller par moi-même, je me rends compte que ces gens-là, ils vivent un bonheur, mais un bonheur éphémère. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce bonheur-là, il est de courte durée, même si ça peut être une illusion. Vous vous rendez compte, un dictateur qui règne pendant 32 ans au pouvoir. Bah, 32 ans, on a l'impression que c'est une éternité. Mais 32 ans finit par passer comme un mirage. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe un peu dans le monde. Hein. En Afrique, les grands dictateurs qui étaient indéboulonnables aujourd'hui, certains sont en prison. Pourtant, ils ont été au pouvoir pendant 30 ans. Mais 30 ans, quand on voit, on se dit, mais 30 ans, c'est effectivement, 30 ans, c'est un enfant qui naît, qui va à la crèche, qui va à l'école, qui va à la fac, qui a son diplôme, qui travaille, qui est parfois marié. 30 ans, c'est beaucoup. Mais quand on voit 30 ans comme ça, on se dit, mais oh là là, mais 30 ans finissent par passer. Et c'est ça ce que le diable fait. Il te dit, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que je te propose. Et Asaph dit, j'ai voulu parler comme ces gens-là. Mais il dit une chose, ils sont sur une pente glissante. Et quand on est sur une pente glissante, bah, qui les tient? Parce qu'ils sont sur une pente. C'est qui les tient? C'est Dieu. C'est Dieu qui les tient. Vous savez, c'est comme l'apesanteur. Hein? Il suffit que Dieu lâche. C'est comme si Dieu a une corde qu'il tient. Parce que la Bible dit que c'est lui qui établit les rois, les chefs, les grands. C'est lui qui les établit. Mais ils sont en sursis, ils sont comme sur une corde. Dieu les tient comme ça. Il suffit que Dieu lâche un peu la corde, il reprend le type vacille. On a vu avec le ministre Strauss-Kahn, on a vu Sarkozy, on a vu beaucoup. Des grands hommes qui, en un instant, ou en une seule affaire, toute ta carrière de 40 ans, 50 ans, tout le respect que tu as pu acquérir, vole en éclats. Je suivais l'avocat. Comment il s'appelle, Jérôme Cahuzac. Il disait, mais cet homme, c'est un homme qui est détruit. C'est un homme qui est malheureux. Aujourd'hui, il est parti s'installer en Guyane. Parce qu'il est médecin. Mais c'est un homme qui a fait la politique. Il est parti s'installer en Guyane, pourquoi? Pour se faire oublier. Et l'avocat dit, vous vous rendez compte, hein, cet homme a souffert parce que de son histoire, il y a eu un divorce avec sa femme. Il a été livré en pâture. Et quand il a repris, donc il a arrêté la politique, il n'avait pas le choix, il a repris son travail de médecin. Je crois qu'il a dû faire des remplacements. Et son avocat dit, vous vous rendez compte, le monsieur arrive dans la salle de travail, dans la salle de réunion avec les collègues. Il y a des collègues qui disent, mais non, on ne veut pas travailler avec cet homme, avec cet énergumène, cet escroc. On ne veut pas travailler avec lui. Alors l'avocat dit, vous vous rendez compte, qui va lui rendre son honneur? Qui va rendre cet honneur-là à cet homme? Cet homme est meurtri. Non seulement son histoire personnelle est brisée, mais quel honneur a-t-il? Est-il encore un humain? Mais c'est ça, bien-aimé, c'est ça. Pourtant, il a caché des millions dans des paradis fiscaux. Lui-même, il était ministre du budget. Il disait, les fraudeurs, on va les traquer jusqu'à la moelle épinière. Mais lui-même, il en était un. Lui-même, il en était un. Ah, maintenant, quand le coupé tombe sur toi, qui est là pour te soutenir? Bien-aimé, c'est ça, ce monde. Voilà pourquoi Asaph dit, mais qui ai-je d'autre au ciel? Si ce n'est toi. Bien-aimé, c'est ça, espérant l'éternel. C'est ça notre premier point. Espérant l'éternel, c'est quoi? C'est comprendre que seul Dieu est notre délivrance. Seul Dieu est notre solution. Je ne dis pas que les autres solutions n'en sont pas. Ce sont des solutions, mais ce sont des sursis. C'est comme un doliprane. Aspirine, tu le prends parce que tu as une rage dedans, parce que tu as mal. Ça va agir, mais ça va agir combien de temps? 1 heure, 2 heures. 3 heures, c'est une accalmie. Vous savez, comme en temps de guerre, il y a parfois des temps de combat, des temps de repos. Et parfois, quand il y a ce repos-là, l'accalmie, on se dit, ah, c'est bon. Ah, mais non. C'est quand tu veux se reposer que tu entends des balles. Ah, oh, finalement, il y a encore un problème. Oui, c'est ça. C'est ça, espérer dans les humains. Et Asaph dit, qui ai-je d'autre au ciel que toi? On se rappelle dans Jean 5, Jésus vient voir cet homme. Il lui dit, homme, veux-tu être guéri? À la piscine de Bethesda. L'homme dit quoi au Seigneur? Il dit, Seigneur, je n'ai qui? Je n'ai personne. Je n'ai personne. Quand l'ange arrive, il secoue la piscine. Le premier qui entre est guéri. Et moi, vois-tu, ça fait 38 ans que je suis là. Eh bien, je n'ai personne, moi. Le Seigneur lui dit, prends ton lit, lève-toi, marche. C'est ça. Comprendre déjà qu'il n'y a que Dieu seul qui est notre solution. Les humains pourront apporter des brides de solutions, des petites, des semblants de solutions, mais la vraie solution, elles ne peuvent venir que de Dieu. Lorsque tu es au fond de l'abîme, au lieu de te rebeller contre Dieu, cherche l'Éternel, cherche-le. Nous lisons Marc au chapitre 5, c'est une histoire que nous connaissons. Marc 5, l'histoire de la femme avec la perte de sang. Marc 5. On peut commencer au verset 25. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les médecins. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son propre corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et il se retournant du milieu de la foule, et il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. C'est deux histoires en une, parce qu'il y a l'histoire aussi que j'aime beaucoup de Jaïrus qui vient voir le Seigneur pour lui dire, « Écoute, ma fille est malade, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire ?» Et pendant ce temps-là, cette femme arrive vers Jésus. On nous dit, ayant entendu parler de Jésus. Mais on nous donne plusieurs détails hein, dans l'histoire. On nous dit, verset 26, déjà au verset 25, elle souffrait pendant 12 ans. 12 ans de souffrance, bien-aimée. 12 ans de souffrance. Quelquefois, on passe par des épreuves. Un mois, deux mois, on tient encore le coup. Trois mois, on tient encore. Jésus le roi, quatre mois. Alléluia. Cinq mois, six mois, sept mois, un an. Ah là, le langage commence à changer. On se dit, mais ah, est-ce que vraiment le Seigneur m'aime? Là, le diable vient te dire, mais oui, mais tu es chrétien, où est Dieu? Et là, les païens, quand c'est comme ça, ils loupent pas l'occasion hein, pour sauter dessus, pour dire, ah bah tiens, l'évangéliste. Certains même vont t'appeler Jésus. Ah, oh, Jésus, tu es malade. Tu es toujours malade. Qu'est-ce qui fait ton Dieu? Ah, bien-aimé, ça fait mal, on pleure, on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? L'apôtre Paul nous dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Ça veut dire que l'évangile que nous prêchons n'est pas lié, conditionné à notre situation, à nous. C'est-à-dire que je peux être malade, mais annoncer la résurrection, annoncer le salut, le pardon du péché, la guérison en Jésus à une autre personne. C'est ça, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et nous allons voir cela. Espérer en Dieu, c'est cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. La première raison, c'est laquelle? Ésaïe 55, le Seigneur a dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et bien souvent, on passe par des situations. Quelle est la question qu'on se pose si on est honnête? On va dire quoi? Mais pourquoi? Mais à quoi ça sert? Quelqu'un, un frère chrétien va venir te voir, t'étais quand c'est comme ça. Oh, bien-aimé, tu sais, l'épreuve, l'apôtre Jacques dit qu'il faut voir l'épreuve comme un sujet de joie. Tu regardes la personne, tu dis, mais tu te moques de moi ou quoi? Pourquoi? Oui, mais pour que par l'épreuve, tu apprennes la patience, la foi. Que mais, tu as envie de dire, mais est-ce que j'ai besoin de ça? Je sais qui est Jésus. La patience, mais j'ai connu la patience dans ma vie. La persévérance, mais je persévère. Je suis toujours chrétien. Est-ce que j'ai besoin? C'est ça la question qu'on se pose. Mais pourquoi? À quoi ça sert? Quel est le but? Quel est l'objectif? Parfois, il y a un but clair, mais parfois, il n'y a pas de but connu, parce que Dieu est souverain. Il fait comme il veut. C'est ça. Parce qu'à ce moment-là, on va se comparer, on va se dire, mais comment ça se fait que l'autre, il est passé par telle situation? Sa situation, son problème a duré quelque temps. Et moi, ma situation dure. Mais pourquoi? Bien aimé, c'est ça qu'on a tendance à faire. On a tendance d'abord à se regarder, à se comparer aux autres, à vouloir calquer notre vie sur celle des autres. Non, non. Le Seigneur sait ce qu'il fait. On ne comprend pas tout. Mais au fond de l'abîme, qu'est-ce que dit le cantique de degrés? J'espère en l'Éternel. Il dit, même si la nuit est longue, le jour finira par paraître. Alors je suis comme le gardien, le veilleur. De nuit, je suis là, j'attends qu'il se lève. Comme Job dira, Job 19, 25, je crois, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. C'est cela, c'est ça espérer en Dieu bien-aimé, c'est cela. Et cette femme, on nous dit, 12 ans de souffrance. 12 ans où elle est mise de côté parce qu'elle ne peut pas côtoyer les autres, parce qu'elle est impure, elle est sale. 12 ans où elle est marginalisée, où elle est pointée du doigt. Comment on peut le savoir? Parce que pendant 12 ans, elle n'était pas chez elle. Pendant 12 ans, elle allait voir les médecins. Donc le fait de sortir, on voit que tu es malade. On voit que tu as un problème. Donc elle s'exposait pendant ces 12 ans-là. Et on nous dit que malgré tout cela, les médecins n'ont pu rien faire. Les médecins n'ont pu rien faire. Les médecins n'ont pu rien faire. Pourquoi? Je pense que la réponse, elle est là. Hein? Parce que il fallait que ce qu'elle a entendu de Jésus fasse son travail. Amen. Elle avait entendu parler de Jésus. Mais comme il y avait des solutions autour d'elle, elle s'est dit, bon, Jésus, il faut renoncer à sa vie passée. Il faut se faire baptiser. Il faut accepter de vivre une nouvelle vie. Moi, j'aime bien les sorties, j'aime bien ma liberté. Moi, j'aime bien donner mon avis quand je le veux. Et le Seigneur a laissé qu'elle s'épuise, qu'elle se fatigue, comme il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes, je peux même dire, vous tous qui vous reconnaissez fatigués, venez à moi. Et 12 ans à tourner en rond, nous lisons, on garde cette page-là, nous lisons Jérémie 17. Jérémie 17, c'est un texte qu'on a lu tout à l'heure, pendant la modération. Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dieu nous dit quoi ici? Il nous dit, celui qui prend la chair pour appui, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il va se détourner de Dieu. Parce qu'il a une solution. Sa solution, c'est qui? C'est la chair. Et quand on dit la chair, là, c'est qui? La chair, ça peut être moi, mon intelligence, mes calculs, mon raisonnement. Ah tiens, j'ai tel problème. Ah bah tiens, je sais que j'ai mon cousin qui est ministre. Oh, bah, c'est pas un problème. Je vais l'appeler, je vais lui dire ci, je vais lui dire ça. Je vais présenter la situation. Le problème sera réglé. Dieu nous dit, maudit quiconque se confie dans la chair, dans l'homme, et prend la chair pour appui, et parce que, en faisant cela, il finit par quoi? Par se détourner de l'Éternel. Parce que, pourquoi il va vouloir, chercher à avoir besoin de Dieu? Puisque la solution est déjà là. Pourquoi il va chercher Dieu? Et c'est ce qui nous arrive aussi. Quand tu as le compte bien rempli, tu vas faire les courses. Rares sont ceux qui, même pour aller, je donne un exemple comme ça, à Lidl, va prier pour dire, Seigneur, conduis-moi à faire des courses, des bonnes courses, parce que tu as l'argent. Tu mets ta carte, ça passe. Bien aimé, mais quand tu n'as rien, Là, tu vas commencer à prier. Ah, Seigneur, le carburant. Seigneur, là, j'ai besoin de 2 courgettes, 2 aubergines. Là, bien-aimé, tu vas prier à ce moment-là. Mais l'homme est comme ça. Quand tu as des choses à ta disposition, eh ben, ça ne t'arrive pas de prier parce que bon, oh, la voiture est cassée. Combien? 4 000 euros de réparation. Bon, le compte, tu as eu un virement spécial de 10 000. Donc voilà, tu dis bon, allez, on y va, je signe. Parce qu'on est comme ça, l'humain est comme ça. Parce qu'il a sa solution à lui-même. Et là, Dieu nous dit, celui qui pense comme ça, il est maudit. Bien-aimé, quand on parle, ce qu'on dit ici aujourd'hui, ça nous concerne principalement nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens. Parce que le combat que nous avons à mener, c'est lequel? C'est de se soumettre à Dieu, de se soumettre à la volonté de Dieu, de se soumettre au travail que Dieu fait en nous. C'est ça notre combat. Notre difficulté, elle est là. Comme on le dit souvent, le péché d'Adam, être comme Dieu, finalement, j'ai compris les choses. Alors qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Mais bien aimé, Dieu a toujours quelque chose à nous apprendre. Et dans Jean 15, il est écrit que le Seigneur est en perpétuel travail. Il est monde. Il est monde, les branches. Il voit, non, il voit que ça ne va pas. Il va couper. Il va ajuster. Et pendant qu'il coupe, pendant qu'il ajuste, eh ben ça fait mal. Ça fait mal. Et là, le Seigneur nous dit, maudit quiconque se confie dans l'homme. Prend la chair pour appui. Et il se détourne de l'Éternel. Verset 6, il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voilà ce qu'on nous décrit. On dit que cet homme-là, qui se confie en lui, qui ne cherche pas à espérer en Dieu, eh ben, il est misérable. Il est misérable. Le bonheur est là à la porte, mais il ne voit pas parce que lui, il est concentré sur lui. Comment je veux faire? Mais qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Mais quand un chrétien l'appelle encore, il s'énerve. Tu veux dire quoi? Tu es plus chrétien que moi? Bien-aimé, au lieu de te dire, bon, je vais crier à Dieu, je vais espérer en Dieu. Verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Bien-aimé, voilà la description qu'on dit. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, celui qui se confie en l'Éternel, est-ce qu'il ne voit pas la sécheresse ? Mais bien sûr qu'il la voit. La chaleur ! Est-ce qu'elle n'est pas là? Elle est là, la chaleur. Mais quelle est la différence? C'est que pour lui, la chaleur n'a pas d'effet. Parce que lui, il a un amortisseur. Lui, il a un parasol. Il a un bouclier. Ce bouclier, c'est qui? C'est l'Éternel. Alors, il espère en lui. Voilà. Il espère en lui. Il espère en l'Éternel. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous voulons faire les choses par nous-mêmes. On veut se débrouiller par nous-mêmes. On veut diriger par nous-mêmes. Mais comme on a dit tout à l'heure, le Seigneur va mettre cela à l'échec. Ça va se solder par un échec. L'objectif étant qu'on compte sur lui. Je me rappelle du témoignage d'un bien-aimé qui a passé un examen, qui a passé à plusieurs reprises un examen. Première fois, il n'a pas eu. Deuxième fois, il n'a pas eu. Troisième fois, il n'a pas eu. Et je parle avec la personne qui me dit, tu sais, moi, je suis tout ce qui est scolaire. Je suis assidu. Je suis carré. C'est-à-dire que quand il y a un cours à apprendre, eh ben, j'apprends. Et quand je viens, ce n'est pas pour avoir la moyenne. Quand je travaille mon examen, ce n'est pas pour avoir la moyenne. Parce que j'ai travaillé avec sérieux. Je sais que moi, quand je viens, c'est pour viser 15 ou 16. Alors la personne me dit, mais là, l'examen que j'ai passé, c'est pas moi qui contrôle. Il y a un inspecteur qui contrôle les choses. Donc moi, j'arrive, il y a toujours un événement pour mettre le stress, déjà, t'es pas bien, mais tu arrives, et puis t'as toujours peur de mal faire, tu veux bien faire, tu veux... Et finalement, la personne me dit quoi? Mais à chaque fois, les choses ne dépendent pas de moi. J'ai dit, ah, voilà, gloire à Dieu, c'est ça. C'est ça, être enfant de Dieu. C'est-à-dire que les choses ne dépendent plus de nous. Les choses dépendent de quelqu'un d'autre. Bien sûr, humainement parlant, ça dépend de celui qui va corriger. Mais plus que cela, les choses dépendent de l'Éternel. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je fais à ce moment-là? Moi, je fais ma part à moi. Et le reste, qu'est-ce que je fais? Je m'attends à Dieu. Bien-aimé, il y a parfois des partiels, je me rappelle quand on était à la fac, tu sors avec ton brouillon, et avec les collègues, les amis, on corrige. Ah ben tiens, numéro 1, moi j'ai fait ça. Bon, toi, tu es dans le silence, là, tu dis rien, mais tu vérifies, tu comptes même, bon, sur 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, 6, bon. Bon, 6 là, c'est même pas sûr que j'ai répondu à tout. Donc, dans ta tête, tu sais déjà à quoi t'attendre. Tu sais que là, sur 10, j'ai répondu à 6, mais 6, j'ai répondu à peut-être 2 à moitié, 4, j'ai répondu. Donc, tu sais que là, on va te demander, mais alors, Jean-Luc, comment... Bah, je sais pas. Parce que ça peut être 4 sur 10, comme ça peut être... 8, on sait jamais, donc il y a toujours un espoir. Bon, généralement, quand c'est comme ça, l'espoir, il est toujours vers le positif. On espère que, bon, j'ai quand même expliqué, hein, donc le prof va comprendre. C'est comme ça. Mais là, à ce moment-là, les choses dépendent de qui? Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Donc toi, tu n'as que attendre qu'on dise, tiens, les résultats sont affichés. Voilà, ça sera la surprise. Et la personne me dit ça, elle me dit... Je suis studieuse, je suis carré, mais arrivé là, première fois, je ne contrôle pas. Deuxième fois, il y a le stress. Troisième fois, et quatrième fois, la personne me raconte qu'elle vient pour faire l'examen et elle se met à parler avec une autre personne qui vient pour l'examen aussi. Et la personne lui dit, donc il parle, ils échangent. Alors l'inspecteur arrive, l'autre qui lui parlait, lui dit, oh non, pas lui, pas cet inspecteur-là. Il est trop méchant. Alors, on commence à lui dresser un tableau. La personne arrive déjà avec son stress. L'autre qui est là lui dit, mais oui, mais je connais la personne, il est très méchant. Elle dit, mais je tremblais. Je dis, avant même d'avoir fait l'examen, je dis, Seigneur, je peux pas dire que j'ai échoué, mais je te confie toute chose. Et donc, la personne me dit, arrive à son tour, l'inspecteur qui met la pression, qui parle, qui lui dit, là, Madame, considérez que si je parle une fois, je vous fais une remarque, c'est une fois de trop. Bien-aimé, vous vous rendez compte de quelqu'un qui vous dit ça? La personne arrive, vous dit bonjour, il vous dit, pendant tout ce que vous aurez à faire, il ne faut pas que j'ouvre ma bouche. Si je parle, c'est une fois de trop. Quelle pression! Et la personne me dit, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire si ce n'est compter? Espérer en Dieu. Bien-aimé, c'est ça. Dieu va nous mettre dans ces situations-là où on n'a pas pied. Vous savez, quelqu'un qui est sur une terre, qui est mouvante, quoi. Il ne sait pas sur quoi s'accrocher. Il ne sait pas. Dieu va permettre cela. L'objectif, c'est lequel? C'est qu'on espère en lui. C'est quoi l'objectif? C'est que ce qu'on a entendu, la femme avec la perte de sang, à la perte de sang, on dit, ayant entendu parler de Jésus, elle a passé 12 ans à trouver des solutions, mais Dieu va permettre cela pour que ce que tu as entendu du Seigneur, que tu puisses le prendre pour dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais Seigneur, est-ce que tu vas m'abandonner, Seigneur? Mais Seigneur, c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Tu ne contrôles rien du tout. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir travaillé. Tu as travaillé, mais tu arrives. Le sort n'est plus entre tes mains. C'est ça. Mais l'avantage que nous avons, c'est lequel? C'est d'avoir l'Éternel avec nous. Et l'Éternel, lui, il décide même sur les cœurs des correcteurs. Alors quand je vis un échec, entre guillemets, parce que bien souvent les échecs, c'est toujours des leçons que Dieu nous donne. Mais dans tout cela, Dieu veut nous apprendre une chose, c'est à espérer en lui. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe 30, Il dit malheur à ce peuple d'Israël qui va chercher secours en Égypte. Il dit le secours de l'Égypte est une honte. Et bien souvent, beaucoup de chrétiens cherchent des secours en Égypte, des alliances humaines pour arriver à des fins. Et en faisant ainsi, c'est comme si on dit que Dieu est incapable, Dieu est impuissant. C'est cela. Et finalement, pour finir l'histoire, la personne me dit, bon, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle s'est dit, non, là, j'ai foiré. On lui demande, mais non, c'est même pas la peine. Échec total. Échec. Donc, il n'y avait que le résultat à attendre et à louer le Seigneur. Et on lui dit, mais non, c'est bon. Voilà, tu as eu exactement ce qu'il fallait. Le minimum syndical, tu l'as eu. Donc, l'objectif, c'était de l'avoir. Voilà, mais tu l'as eu, c'est ça. Et, bien aimé, Dieu va faire les choses ainsi. D'abord, pour nous briser, nous, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la personne qui dit tout ce qui est scolaire, moi, je suis studieuse, j'aime bien apprendre. Il y a des gens comme ça qui ont cette facilité à mémoriser le cours, à comprendre les choses. Mais il y aura des situations où les choses ne dépendent plus de toi. Tu connais ou tu ne connais pas, quelqu'un vient et te met un stress, tu perds tes moyens. Et là, tu n'as que l'Éternel, comme le psaume 73, 25 dit. Qui d'autre ai-je dans le ciel si ce n'est toi, Éternel? Le Seigneur veut qu'on apprenne à espérer en lui. Alors cette femme, elle entend parler de Jésus. Elle se dit, je vais aller toucher. Peut-être qu'en m'approchant de lui, je serai guérie. Et elle arrive, elle touche le vêtement du Seigneur. Et on nous dit à l'instant même, elle est guérie. Et elle savait au fond d'elle ce qui s'était passé. Et c'est ça que le Seigneur veut faire aussi avec nous. Que nous puissions nous approcher de lui. Espérer en Dieu, c'est quoi? C'est s'approcher de lui. On a dit, c'est compter sur lui. C'est avoir confiance en lui. C'est ça, espérer en Dieu. C'est être proche, comme cette femme. Elle est venue, elle a touché. Il y avait une foule autour d'elle. Peut-être que certains même l'insultaient, la chassaient. Mais elle avait un objectif. C'était le Seigneur. C'est cela. Le Seigneur veut que nous puissions lui faire confiance. Il veut que nous puissions avoir nos regards tournés vers lui. Il veut cela. Alors apprenons cela. Apprenons à espérer en son intervention. Apprenons à compter sur lui. Je me rappelle une histoire, c'est l'histoire de Joseph. Cette histoire-là, c'est une histoire qui m'a toujours marqué. On nous dit dans Genèse 40, Joseph est en prison et il voit deux personnes arriver. Le chef des échansons du roi et le chef de panetier qui ont été punis par le roi et ils sont mis en prison. Et ces hommes sont tristes. Alors Joseph les voit et dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Il dit, mais déjà on est en prison, le roi nous a punis, on est en prison, mais on a fait, le chef des échansons dit à Joseph, on a fait un songe. Et dans le songe, bon, il y avait des choses bizarres, on n'a pas compris. Joseph dit, bon, expliquez-moi, qu'est-ce que tu as fait comme songe? L'homme dit à Joseph, il dit, j'ai vu un cep avec trois sarments, et ensuite, le roi tenait ce cep-là avec les trois sarments, et ensuite, il y a des raisins qui ont commencé à pousser. Et j'ai pris ces raisins-là, j'ai pressé, j'ai mis le produit de ces raisins dans une coupe et j'ai donné au roi. Joseph explique le songe en lui disant, 3 jours. Donc les trois sarments que tu as vus, c'est 3 jours. Encore 3 jours, tu es en prison et ensuite tu sortiras de la prison et tu vas retrouver ton poste parce que le raisin que tu presses, que tu donnes ce verre-là au roi, ça montre que tu le sers encore. Donc finalement, tu vas retourner le servir. Mais seulement écoute, là moi je te fais du bien. Donc, toi aussi quand tu vas sortir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir le roi pour lui dire, roi, j'ai rencontré un homme qui m'a expliqué le songe et ensuite, tu plaideras ma cause auprès du roi pour que je sorte de cet endroit, de cette prison. Et on nous dit quoi? L'homme sorti de la prison, qu'est-ce qu'il fit? Il oublia Joseph. Bien-aimé, est-ce qu'on peut oublier de telles choses? Est-ce qu'on peut oublier ça? Quelqu'un, tu es en prison, quelqu'un qui vient, il te parle exactement tout ce qu'il te dit, se réalise. Je pense qu'il y a des rencontres qu'on fait dans la vie, qu'on garde précieusement. On se dit, mais c'est bizarre cette rencontre que j'ai faite là. Et on nous dit, l'homme est sorti, 3 jours après, il a oublié Joseph. Mais pourquoi il a oublié? Parce que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Il est resté encore 2 ans de plus en prison. Joseph était un homme qui aimait le Seigneur, qui aimait Dieu, qui était fidèle au Seigneur. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Eh bien, il a été méprisé par ses frères qui étaient méchants et jaloux, qui ont tout fait pour le vendre et finalement il s'est retrouvé en prison. Mais voilà cet homme dans la souffrance, dans la galère. Il s'est dit, mais attends, mais j'ai des potentiels. J'ai du talent. J'arrive à interpréter les songes. Bien sûr, c'est Dieu qui m'a donné ça. Donc, comme c'est Dieu qui m'a donné ça, peut-être que Dieu va vouloir utiliser ce qu'il a mis en moi pour que je sorte. Bien aimé, c'est ça notre raisonnement humain, mathématique. Ah, mais non. Dieu, lui, t'a donné pour que tu le serves. Il t'a pas donné ça pour utiliser ça pour ton propre compte, comme on voit aujourd'hui des gens qui chantent, des gens qui prêchent et qui font payer des choses. Dieu ne nous a pas donné des choses pour notre propre satisfaction. Et c'est ce que le diable a voulu faire à Jésus en disant, si tu es le Fils de Dieu, comme tu as le pouvoir de faire des miracles, fais un miracle. Mais Jésus est en train de dire en quelque sorte au diable à ce moment-là que le don de Dieu, on ne l'utilise pas pour son propre plaisir. C'est ça que Jésus est en train de dire. J'ai la capacité de faire le miracle, de changer les pierres en pain, mais c'est pas pour ça que le Seigneur, que mon Père m'a envoyé. C'est une parenthèse. Et Joseph se dit, eh ben, comme j'ai la possibilité que Dieu m'a donné d'interpréter les choses, eh ben, je vais monnayer, je vais faire un troc. Donc je parle et en retour, quelqu'un me pistonne. Mais le piston n'a pas marché parce que le type est sorti. Il a oublié Joseph. Le but de Dieu, c'était que Joseph espère en lui. C'était ça le but de Dieu. Espérer en l'Éternel, c'est attendre. C'est attendre sa délivrance. C'est attendre qu'il agisse. Il y a beaucoup de passages qui nous exhortent à espérer, à croire. Je suis en train de nous parler aujourd'hui. Peut-être que nous sommes là désespérés en se disant, mais comment telle situation? Mais comment on fait tous les calculs, bien-aimé? Tu as beau faire tous les calculs humains, mais tu n'auras pas de solution. On arrive à notre deuxième point. On a dit espérer, c'est attendre la solution de Dieu. Espérer, c'est aussi croire, avoir la foi, même s'il n'y a pas d'issue. C'est ça, espérer en Dieu. Même s'il n'y a pas d'issue, je crois. Quel est l'exemple? On ne va pas le lire. Daniel 3, les amis de Daniel. Le roi arrive, il dit, ah bon? J'ai entendu, est-ce de propos délibéré que j'ai entendu? Vous à qui j'ai donné l'intendance de mon royaume, de Babylone, lorsque la trompette, la guitare, le sambuc, toutes ces choses sonnent, vous ne vous prosternez pas? Les amis de Daniel disent, mais roi, nous on n'a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel. Il dit, mais on verra aujourd'hui quel est l'Éternel. Qui est l'Éternel? Quel est cet Éternel-là qui va vous délivrer aujourd'hui de ma main? Les hommes disent, roi, on n'a pas à discuter avec toi. Nous, on sait une chose, c'est que l'Éternel peut nous délivrer de ta main. Sache-le. Mais même si il ne le fait pas, même si il n'y a pas d'issue, nous continuons à avoir foi en lui. Nous continuons à espérer en lui. Et bien aimé, c'est ça que le Seigneur veut. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 7, l'apôtre Paul dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons non par la vue. La vue, c'est quoi? Ce sont les sens humains. La vue, c'est quoi? C'est le raisonnement humain. La vue, c'est quoi? Ce sont les moyens humains. La vue, c'est quoi? Ce sont les paroles des experts, le médecin expert qui va te dire, mais vous savez, vous avez tel syndrome avec des noms compliqués, barbares. Ça, c'est la vue. Mais l'apôtre Paul dit, nous qui sommes enfants de Dieu, nous marchons non par la vue, mais par la foi. La foi, c'est quoi? Que dit l'Éternel? Que dit l'Éternel? C'est ça. C'est ça. Et c'est là que le Seigneur veut nous amener. Même s'il n'y a pas d'issue, Dieu lui crée l'issue parce qu'il est l'Éternel. Amen. C'est merveilleux. Il n'y a pas d'issue, mais Dieu, lui, il sait qu'il y a une issue. Il sait qu'il y a une issue. Je me rappelle de l'histoire, 2 Chroniques, chapitre 20. On vient dire au roi Josaphat, on dit, mais Josaphat, mais regarde, regarde sur la colline, regarde sur les montagnes. Il y avait 3 peuples, les Ammonites, les Maonites, les Moabites. Réunis ensemble, ils viennent pour attaquer le peuple de Dieu. Alors Josaphat, regarde, on peut lire juste la prière de Josaphat. J'aime beaucoup cette prière-là. 2 Chroniques 20. Bien-aimés, ce sont des passages que nous devons connaître. Parce que ce sont des passages que nous utilisons dans les combats que nous avons. Donc, Deux Chroniques. On peut commencer, verset 20, on peut commencer, on ne va pas tout lire. Hein. On peut commencer au verset 10 pour situer un peu le contexte. Maintenant voici, 2 Chroniques 20, verset 10. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas les jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Bien-aimé, regardez cette prière là au verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas ta justice sur eux? Nous sommes sans force devant cette multitude. Deuxième chose, nous ne savons pas quoi faire. Troisième chose, nos yeux sont sur toi. Bien-aimé, voilà la prière que Josaphat fait à Dieu. Il voit un grand nombre de personnes, de peuples contre le peuple de Dieu. Il se dit, mais Seigneur, même si on doit combattre, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On est sans force. Bien-aimé, il y a des situations, comme on a lu dans le psaume 130, hein, et le psalmiste dit, du fond de l'abîme, il y a des situations qui nous arrivent, on peut se poser, s'asseoir, réfléchir, trouver une solution. Mais il y a des situations, on se dit là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et il dit, devant cette multitude nombreuse, j'ai envie de dire, c'est une tautologie, hein, la multitude, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, mais nombreuses, on accentue encore. C'est-à-dire que c'est même pas la peine. Il dit alors, devant cela, on ne sait pas quoi faire. Mais nos yeux sont sur toi. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est que Dieu touche, donc le peuple d'Israël se réunit tous. Ils viennent prier et Dieu parle à Jacaziel, le prophète. Le prophète dit quoi? Il dit, Israël, écoutez, demain, à cette même heure, vous descendrez la vallée, et qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez pas à combattre, parce que Dieu combattra pour vous. Mais vous allez voir l'embuscade que Dieu va mettre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 peuples, les Maonites, les Ammonites, les Moabites, se sont tués entre eux. Et Israël, et le peuple d'Israël est allé pour ramasser tous les trésors, toutes les richesses. Bien-aimés, voilà comment Dieu fait les choses. Alors bien évidemment, là c'est physique, aujourd'hui Dieu ne va pas tuer nos ennemis pour qu'on prenne leur richesse physiquement, non. Mais c'est pour nous dire qu'il y a parfois des combats où on se dit, c'est perdu d'avance, que faire? Mais le Seigneur nous dit, comme il a dit à Israël ici, il dit, vous n'aurez pas à combattre. Finalement, tu n'as rien à faire pour trouver la solution. Tu as juste à attendre et à prier, à même pleurer. C'est moi qui vais agir, c'est ça. Et la Bible nous dit, sans combattre, ces gens-là se sont tués entre eux. Et eux, ils ont été spectateurs de l'œuvre de Dieu. Et il y a beaucoup d'exemples. La traversée de la mer Rouge, dans Exode 14, verset 14, Dieu dit à Moïse, le peuple pleure, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, devant nous, Il y a la mer derrière, et j'aime beaucoup cette chanson qu'on a chantée. Le char et le son, là, le pharaon, en courant, je ne sais plus comment c'est ce qu'on dit, mais en gros, c'est ça. Donc, devant nous, il y a la mer rouge, derrière, il y a les chars. Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Dieu dit à Moïse, Exode 14, 14, gardez silence, car moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. C'est cela. Alors, bien-aimés, espérons en Dieu. Renonçons à notre moi. Renonçons à toutes les questions pour dire, mais pourquoi moi? Mais pourquoi? Non, je ne dis pas qu'on doit se poser ces questions. On peut se poser ces questions-là. Mais même si on se pose cette question-là, que faire? Première chose, c'est se soumettre à la façon de faire de Dieu. Soumets-toi à la façon de faire de Dieu, tout simplement. Parce que Dieu, lui, sait ce qu'il fait. Alors soumets-toi, et c'est là qu'il y a le problème. On refuse de se soumettre. Mon mari est méchant, et ben moi aussi je vais être méchant. Il est brutal, moi aussi je vais être brutal, comme ça c'est 50-50. Mais dans cela, qui est gagnant? Ben c'est le diable. Parce que toi tu veux faire du 50 dans la force. Et ben il sera finalement plus fort que toi, il va te mettre un coup. Voilà, tu n'auras même pas le temps de répondre. C'est ça. Il parle mal, moi aussi je veux parler mal. Et quand quelqu'un vient te dire, non mais s'il parle mal, laisse-le parler mal. Toi, reste dans la douceur en te disant, oh non, c'est pas possible. Comme je témoignais une fois à quelqu'un qui parlait de la soumission, quelqu'un qui me dit, oh non, 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 vous êtes africain, la soumission c'est votre culture. Ici on est en France. Ah, c'est ça. J'ai dit, non, 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 c'est la culture de la Bible. La culture du Seigneur, on tape sur une joue, tu tends l'autre joue. Tu te laisses faire, mais en te laissant faire ainsi. La Bible dit d'abord, tu amasses des trésors ardents, des pierres ardentes sur la tête de la personne. Et le jugement de Dieu s'abattra. Mais Dieu ne veut pas juger pour faire mal, non. Lui, il veut juger pour manifester que tu t'es mal comporté. C'est ça. Mais puisque tu t'es mal comporté, alors je te frappe parce que tu as refusé de te repentir. C'est cela. Alors, soumettons-nous à la façon de faire de Dieu. Soumettons-nous. On ne sait pas pourquoi. J'ai passé un examen. J'étais sûr de l'avoir. Je ne l'ai pas eu. Bon, Seigneur, je ne comprends pas. Mais je me soumets. Pourquoi je me soumets? Parce que comme on a dit Esaïe 55, que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais plus que cela, le témoignage de notre sœur là qui a passé l'examen, elle me dit, mais finalement, tu sais, Dieu a permis ces trois échecs et ils m'ont été bénéfiques parce que j'ai appris premièrement à espérer en Dieu. Parce que je commençais à refuser d'espérer. Bien aimé, parfois l'esprit te dit, crois, mais ta chair te dit non, 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 non. Non, je ne veux plus croire. Je suis déçu. Elle dit, la personne me dit, j'ai appris à espérer en Dieu. Alors on va dire, mais tout chrétien, à foi en Dieu, tout chrétien, bien aimé, il y a situation et situation. Il y a des situations où on se dit, non, là c'est fini. La personne me dit, j'ai appris à espérer en Dieu. Elle dit, deuxièmement, la personne avec qui discuter, la personne qui lui disait, oh l'inspecteur il est méchant, là 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 là, c'est pas de chance pour nous quoi. Quand la personne sort de son examen, la personne lui dit, oh là là, ça s'est très mal passé, donc l'autre, bon, c'est mon tour là, ça va chauffer. Mais avant de partir, la personne lui dit quoi? Que Dieu te bénisse. Je dis, ah bon? Et elle est partie. Donc elle est restée sur cette phrase-là. Bien aimé, quand on dit que Dieu te bénisse, parfois on se voit que Dieu te bénisse. Parfois c'est juste bonjour. Hein. Mais il y a des fois où on te dit que Dieu te bénisse. Ah, bien aimé, c'est comme si c'est la phrase sur laquelle tu t'appuies, quoi. Ça n'a pas le même goût. Elle dit, la personne sort de l'examen dans tous ses états. Elle dit, bon, ah, ça s'est mal passé, mais bon, que Dieu te bénisse, elle est partie. Alors, elle se dit, ah, donc depuis tout à l'heure, je parle avec la personne, mais en fait, la personne croit en Dieu. Et moi, je ne le savais pas. Et peut-être que le Seigneur a permis toutes ces galères-là pour que je rencontre cette personne-là. Est-ce que je vais la revoir encore un jour? Je ne sais pas, mais au moins, cette personne-là, quand elle m'a dit que Dieu te bénisse, je dis, ah, ça je prends. J'oublie même tout ce que je veux faire à l'examen, je prends juste que Dieu te bénisse. Bien aimé, c'est ça. Parfois, Dieu va permettre, comme on a dit pour cette femme à la perte de sang, 12 ans, mais il a fallu 12 ans pour qu'elle se souvienne de Jésus. Qu'elle se souvienne de ce qu'elle a entendu. Et Dieu va faire la même chose avec nous. Pour qu'on se souvienne de la Bible. Pour qu'on se souvienne, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, 2 Timothée 2, verset 8, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, de la postérité de David, qui est mort, ressuscité le troisième jour. Souviens-toi, bien-aimé, c'est ça. On aura tout perdu, tout ce qui va nous rester, c'est le Seigneur, comme a dit le psalmiste. Qui d'autre ai-je au ciel que toi ? C'est cela. C'est ça. Comment faire ? On a dit la première chose, se soumettre à ce que Dieu fait. À sa façon de voir, à sa façon de nous conduire. Parfois, il va permettre qu'on passe par un chemin, on a un problème, on s'énerve, mais c'est pas possible. Mais peut-être que Dieu fait ça pour que tu rencontres une personne ou qui te bénisse. Ou alors que tu vas bénir. Mais tout ça, on a du mal. Certains vont dire, ah là, c'est le diable qui m'a bloqué. Mais non, le diable n'est pas plus fort que Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, on doit mettre le Seigneur à la première place. Le diable, je ne dis pas qu'il faut négliger, mais nous, on a affaire à l'Éternel. Maintenant, le diable est un ouvrier que Dieu va utiliser de temps en temps pour nous parfaire, nous. Mais tout de suite, on va dire, ah, c'est le diable. Non, 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 non. J'ai été retardé à le Seigneur. C'est ça qu'on voit dans Actes des Apôtres. Hein. À chaque fois, Paul dit, j'ai voulu aller à tel endroit, le Seigneur nous a empêchés. J'ai voulu faire le Seigneur. Pourtant, c'est Paul. Je veux dire, mais je suis Paul, je sais prêcher, je sais, j'ai la puissance de résurrection. Non, non. Considère que non, ça n'a pas marché là. Bon, Dieu n'a pas voulu. Là, Dieu n'a pas voulu. Voilà. Alors je me soumets. Je me soumets. Et deuxième chose, ça c'est important, savoir que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu le sait. Voilà pourquoi une des raisons qui doit nous pousser à espérer en Dieu, c'est de savoir que Dieu nous aime. Il nous aime. Et puisqu'il nous aime, lui sait ce qui est bon. Il le sait. Parfois, on va demander ceci. Pourquoi cela ? Je ne vois pas ça. Pourquoi ? Il va répondre parfois. D'autres fois, il ne va pas répondre. Mais ayons cette certitude que l'Éternel est mon papa. Il est mon papa, il est écrit, c'est le Seigneur qui dit, il dit vous qui êtes mauvais, nous qui sommes mauvais, nous arrivons à donner de bonnes choses à nos enfants, mais à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux. Alors ayons cette foi-là, croyons que l'Éternel sait ce que nous vivons. Il le sait, il est au courant de cela, mais par-dessus tout, il nous aime. Et troisième chose, c'est Romains 8, 28, la Bible dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors pendant que j'espère, pendant que j'attends, pendant que je m'attends à Dieu, la situation qui me dérange, peut-être même l'échec que je vis, tirer les leçons, qu'est-ce que Dieu a voulu m'apprendre par là ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Peut-être que je ne suis pas consacré à Dieu totalement. Peut-être que je suis chrétien de posture. Je ne suis pas vraiment consacré. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre ? Qu'est-ce que Dieu veut corriger en moi ? On se rappelle Anne qui a prié longtemps pour avoir un enfant. Elle n'a pas eu de réponse. Finalement, elle s'est remise en question. Elle a dit, Seigneur, non, excuse-moi, j'ai mal prié. J'ai prié pour moi. Maintenant, donne-moi un fils et je vais te le consacrer. Et là, le Seigneur a exaucé. C'est ça. Donc, dans tout ce que nous vivons, cherchons, nous lisons pour finir, on va finir avec Ésaïe 49, juste un verset. Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? On peut commencer au verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, c'est ce que parfois il nous arrive de dire, mais je ne comprends pas. Mais Dieu, il est où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Verset 15, une femme oublie-t-elle ? Donc c'est Dieu qui répond maintenant à Sion, donc à Israël, quoi. Dieu lui répond, mais tu dis que j'étais oublié, mais une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé, sortiront du milieu de toi. Dieu est en train de dire à Israël, mais tu penses que parce que tu es assiégé, tu es dominé, tu es persécuté, tu penses que j'étais oublié. Dieu dit, mais est-ce que tu penses que une mère sensée peut-elle oublier son enfant? Mais Dieu ajoute, il dit, bon, comme ça peut arriver, parce que l'humain est ce qu'il est, à cause du péché, il dit, sache que même si cela arrivait, moi l'Éternel, je n'abandonne pas les miens. C'est cela. Lamentation 3 nous dit que les bontés du Seigneur, de l'Éternel, ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Et c'est ce que Jérémie dit. Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Avant ça, il parle de malheur. Hein. Il dit, il y aura des malheurs qui vont frapper, il y aura ceci, il y aura cela. Il dit, mais voici ce que je vais repasser. Au verset 22, verset 23, jusqu'au plus bas. Il dit, malgré tous ces malheurs-là, moi, ce que je vais repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque jour. Chaque jour. Et il dit, oh, qu'il est beau d'espérer en l'Éternel. Alors, bien-aimés, espérons en Dieu. Ayons confiance dans le Seigneur. Et nous verrons sa gloire. Même si on a l'impression que ça fait longtemps, qu'on est perdant, c'est juste une impression. C'est juste une impression. Nous ayons foi. La foi des amis de Daniel. Les amis de Daniel qui ont discuté avec le roi, ils n'ont pas fait comme on va faire aujourd'hui de l'évangélisation pour aller dans les rues, pour distribuer des tracts au roi, pour dire l'Éternel, le Dieu d'Israël. Non. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Et ils ont juste cru en leur Dieu. Ils ont dit au roi, même si on meurt aujourd'hui, sache que notre Dieu va nous délivrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Le roi est furieux, il dit, allez, mettez la fournaise 7 fois plus fort. Les gens même qui approchent la fournaise sont tués pour dire à quel point c'était difficile. Mais eux, ils entrent, ils ressortent. Qu'est-ce que le roi dit? Il dit, à partir d'aujourd'hui, le Dieu d'Israël est le seul qui doit être adoré. Pourtant, ces hommes-là n'ont pas parlé, ils n'ont pas pris de micro pour dire « Éternel est le seul Dieu ». Non. Eux, ils ont seulement cru en Dieu. Ils ont espéré, sans issue. Ils se sont dit « Bon, dans tous les cas, Dieu est Dieu ». Et c'est ça. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu était obligé de passer par la fournaise? Et en plus, il y avait un quatrième homme. Pourquoi le quatrième homme n'est pas venu avant pour fermer la bouche de... On peut faire des films, on peut refaire le scénario, mais le scénario de l'Éternel, c'est le meilleur. Excusez-moi, je parle de scénario, c'est même pas le scénario. C'est sa réalité à lui. Elle est meilleure. Alors, soumettons-nous à cela, à ce que Dieu fait. Espérons en lui. Au nom de Jésus, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous apprend à espérer en toi, Seigneur. Comme le psalmiste dans le psaume 130 dit, au fond de l'abîme, j'écris à l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel comme le gardien espère voir le jour. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides aussi, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous refusons de nous soumettre à ta façon de faire. Pardonne-nous pour toutes les fois où, Seigneur, nous doutons de ton amour pour nous. Nous venons de lire, Seigneur, dans Ésaïe 49, tu dis qu'une femme n'abandonne pas les siens. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle aujourd'hui que si nous t'appartenons, Seigneur, réellement, tu ne nous abandonnes pas. Alors nous pouvons espérer en toi. Seigneur, aide-nous aussi, Seigneur, à apprendre. Car il est écrit que toute chose concourt pour notre bien dans tout ce que nous vivons, il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose de bien. Peut-être c'est un examen qu'on a dû repasser une fois, deux fois, trois fois. On dit, on a l'impression de perdre du temps. Mais il y a quelque chose de bien que tu veux nous apprendre dans cela. Nous bénissons ton nom pour ta parole, qui nous donne des forces nouvelles, Seigneur, en espérant en toi. Merci parce que tes bontés ne sont pas épuisées, parce que tes compassions, Seigneur, se renouvellent tous les jours dans nos vies. Nous bénissons ton nom pour ta parole, pour ton esprit qui continue à agir dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.